Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute en direct de l'émission Constellation. Le poète Yves Bonnefoy avait donné pour titre à l'un de ses livres « Notre besoin de Rimbaud ». Que nombre de ses essais aient porté sur Baudelaire autorise à le paraphraser pour affirmer « notre besoin de Baudelaire ». De paraphraser aussi la dédicace de Baudelaire à Théophile Gautier pour redire que Baudelaire est bien un poète impeccable, un parfait magicien S lettres françaises, mieux encore, le poète impeccable, le parfait magicien S lettres françaises. Deux émissions lui ont auparavant été consacrées, mais les vivifiantes analyses du critique littéraire Jean Starobinski aiguillonnent la sempiternelle relecture des Fleurs du Mal, l'inépuisable ressourcement qu'elle procure. C'est donc à la lumière de quelques-uns des articles que Starobinski a écrits à propos de Baudelaire qu'un nouveau bouquet des fleurs peut être composé et offert. Mais sans oublier qu'à l'instar de l'ikebana, cet art traditionnel japonais fondé sur la composition florale, le recueil des Fleurs du Mal répond à un ordonnancement si rigoureux que tout florilège, le jeu de mots facile oblige, tout florilège, particulièrement dans le cas de ce recueil, est trahison. Et, malgré le pendant aux fleurs que constitue la suite des poèmes en prose du Spleen de Paris et l'affirmation de Baudelaire dans la dédicace qu'il adresse à Arsène Housset, je le cite, « Nous pouvons couper où nous voulons, moi ma rêverie, vous le manuscrit, le lecteur sa lecture, car je ne suspends pas la volonté rétive de celui-ci au fil interminable d'une intrigue superflue. Enlevez une vertèbre et les deux morceaux de cette tortueuse fantaisie se rejoindront sans peine. Hachez-la en nombreux fragments et vous verrez que chacun peut exister à part. » Dans l'espérance que quelques-uns de ces tronçons seront assez vivants pour vous plaire et vous amuser, j'ose vous dédier le serpent tout entier. Voilà ce qu'affirmait Baudelaire à propos du Spleen de Paris. Quant aux 126 poèmes de l'édition des Fleurs du Mal de 1861 et les 6 sections qui la composent, on peut dire que l'ensemble répond à une architecture, à une composition et à une progression savante depuis l'idéal jusqu'à la mort, en passant par les tableaux parisiens, le vin, les fleurs et la révolte. Autrement dit, détacher une vertèbre de cette colonne participe d'un arbitraire qui ne doit pas faire oublier le cheminement de ce serpent qui danse, pour reprendre un titre de poème, ce serpent qui danse depuis la bénédiction qui ouvre le recueil jusqu'au voyage final. Lisons donc le serpent qui danse, la 28e fleur de la section Spleen et idéal, section qui, au dire des critiques, renverse l'ordre proposé, puisque les poèmes faisant état du spleen viennent plutôt clore la section, alors que ceux dévolus à l'idéal l'ouvraient. Je lis donc le texte intitulé « Le serpent qui danse ». Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoile vacillante, miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareil pour un ciel lointain. Tes yeux, où rien ne se révèle de doux ni d'amer, sont deux bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant, et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, je crois boire un vin de bohème, amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur. Thank you. Alors, peut-on, comme Baudelaire nous y invite à propos du spleen de Paris, détacher des vertèbres du serpent ? La forme si classique du sonnet, omniprésent dans Les Fleurs du Mal, 59 poèmes sur 126, et leur disposition souvent groupée, plaide peut-être en faveur du détachement de chaque vertèbre qu'opérera l'opiniâtreté d'un squelette laboureur. C'est d'ailleurs le titre d'une autre pièce, d'une autre fleur des Fleurs du Mal, la 94e fleur des tableaux parisiens, qui s'intitule précisément « Le squelette laboureur » que je lis à présent. Dans les planches d'anatomie qui traînent sur ces quais poudreux où main livre cadavéreux dort comme une antique momie, dessins auxquels la gravité et le savoir d'un vieil artiste, bien que le sujet en soit triste, ont communiqué la beauté, on voit, ce qui rend plus complète ces mystérieuses horreurs, bêchant comme des laboureurs, des écorchés et des squelettes. De ce terrain que vous fouillez, manants, résignés et funèbres, de tout l'effort de vos vertèbres ou de vos muscles dépouillés, dites, quelle moisson étrange, forçats arrachés aux charniers, tirez-vous, et de quel fermier avez-vous à remplir la grange ? Voulez-vous, d'un destin trop dur, épouvantable et clair emblème, montrer que dans la fosse même, le sommeil promis n'est pas sûr ? Quand vers vous le néant est traître, que tout, même la mort, nous ment, et que, sempiternellement, hélas, il nous faudra peut-être, dans quelque pays inconnu, écorcher la terre revêche et pousser une lourde bêche sous notre pied sanglant et nu. Considérons à présent le poème au titre latin « Moesta et errabunda », ce qui signifie « triste et errante », la 62e fleur de la section « spleen et idéal ». Jean Starobinski la rattache au genre du poème d'invitation inspiré du poète latin Horace, et il la relie aussi à celui que Baudelaire nommait plaisamment un ébéniste de Marie-Antoinette, André Chénier. Starobinski montre que l'épître de Chénier adressée à François de Pange a directement inspiré Moesta et errabunda, notamment avec ce distique qui désigne la muse consolatrice, je cite Chénier, tantôt à pas rêveur, mélancolique et lente, elle erre avec une onde épure et languissante. Mais Baudelaire inverse le cours de l'invitation qui, chez Chénier, se conjuguait au futur, alors que Moesta et errabunda la conjuguent à un lointain passé. Découvrons à présent le poème Moesta et errabunda. Dis-moi, ton cœur, parfois, s'envole-t-il, Agathe, loin du noir océan de l'immonde cité, vers un autre océan où la splendeur éclate, bleu, clair, profond, ainsi que la virginité ? Dis-moi, ton cœur, parfois, s'envole-t-il, Agathe ? La mer, la vaste mer, console nos labeurs. Quel démon a doté la mer, rauque chanteuse, qu'accompagne l'immense orgue des vents grondeurs, de cette fonction sublime de berceuse. La mer, la vaste mer, console nos labeurs. Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate, loin, loin, ici, la boue est faite de nos pleurs. Est-il vrai que parfois, le triste cœur d'Agathe dise, loin des remords, des crimes, des douleurs, « Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate !» Comme vous êtes loin, paradis parfumé, où, sous un clair azur, tout n'est qu'amour et joie, où tout ce que l'on aime est digne d'être aimé, où dans la volupté pure, le cœur se noie, comme vous êtes loin, paradis parfumé. Mais le vert paradis des amours enfantines, les courses, les chansons, les baisers, les bouquets, les violons vibrants derrière les collines, avec les brocs de vin, le soir dans les bosquets. Mais le vert paradis des amours enfantines, l'innocent paradis, plein de plaisirs furtifs, est-il déjà plus loin que l'Inde et que la Chine ? Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs et l'animer encore d'une voix argentine, l'innocent paradis plein de plaisirs furtifs. C'est surtout la longue analyse d'un des poèmes intitulé « Spleen » qui souligne l'heureux alliage chez Starobinsky de ces deux compétences, critique littéraire et médecin psychiatre, sans céder aux sirènes d'une psychanalyse simplificatrice. Il analyse le premier des quatre spleens qui commence par le vers « J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans ». On ne citera qu'un court fragment de son article intitulé « Les proportions de l'immortalité », article inclus dans le recueil « La beauté du monde » publié aux éditions Quarto chez Gallimard. Le fragment cité imposant aussi une forme décisive et décidée de la diérèse nécessaire à la lecture orale. Rappelons que dans la poésie classique, la diérèse dissocie un groupe vocalique en deux syllabes, opérant à la fois un décompte juste des syllabes et une insistance articulatoire qui donne un relief particulier au mot sur lequel elle s'opère. Exemple, avec le mot « nation », des mots que nous prononçons avec « i » consonne sont prononcés en vers avec « i » voyelle, ce qui fait qu'un mot comme « nation » comportera trois syllabes et non deux. En versification, ajoutons que la diérèse est de règle lorsque le « i » est précédé de deux consonnes, dont la seconde est un « r » ou un « l ». Et c'est donc un procédé que rappelle Starobinsky. Je lis le court fragment de son analyse. Je le cite donc. « Comme pour renforcer l'agrandissement manifesté sans équivoque au niveau sémantique, Baudelaire fait intervenir pour la première fois dans le poème des noms de 4, 5 et 6 syllabes, où la diérèse, à 3 reprises, contribue très efficacement à l'effet d'allongement du signifiant. Ainsi, tandis que le sujet lyrique, comparé à la fosse commune, puis devenu cimetière, s'attribuait le recel massif de la mort, voici l'ennui, éprouvé à coup sûr par le sujet, mais introduit dans le poème comme une entité indépendante supplantant le sujet, qui accède à ce qui est très évidemment le contraire absolu de la mort, l'immortalité. Le spleen s'énonce donc comme l'expérience quasi simultanée d'une inclusion de la mort dans la crypte intérieure, pyramide ou cerveau, et d'une souffrance interminable, l'ennui, voué à ne jamais connaître la mort. » Fin de citation. Et donc je lis à présent le poème intitulé « Spleen » et qui commence par « J'ai plus de souvenirs ». J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide, un immense caveau qui contient plus de morts que la fosse commune. Je suis un cimetière, abhorré de la lune, où, comme des remords, se traînent de longs vers qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chères. Je suis un vieux boudoir, plein de roses fanées, où gît tout un fouillis de modes surannées, où les pastels plaintifs et les pâles bouchées, seuls, respirent l'odeur d'un flacon débouché. Rien n'égale en longueur les boiteuses journées, quand, sous les lourds flocons des neigeuses années, l'ennui, fruit de la morne incuriosité, prend les proportions de l'immortalité. Désormais, tu n'es plus, ô matière vivante, qu'un granit entouré d'une vague épouvante, assoupi dans le fond d'un Sahara brumeux, un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux, oublié sur la carte et dont l'humeur farouche ne chante qu'au rayon du soleil qui se couche. De cette émission, vous avez pu entendre tout d'abord de Brahms la sonate pour alto et piano opus 120, interprétée à l'alto par Antoine Tamesti et au piano par Bertrand Chamaillou, puis une pièce de Beethoven, le quatuor numéro 1, un extrait du quatuor numéro 1 interprété par le quatuor Eben, et enfin vous avez pu entendre un extrait d'une sonate pour violon et piano de Brahms, l'opus 108, interprété au violon par David Oistrakh et au piano par Sviatoslav Richter. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.